Vendredi 14 août 1914. L'aube poudroie de rose pâle la clairière où les hommes ont passé la nuit. L'adjudant est déjà d'attaque. Alphonse le surprend à l'arrêt devant la casemate de fortune, les yeux tournés vers le ciel, les mains en visière au-dessus des sourcils. Comme s'il suivait le vol d'un oiseau tout là-haut. Un cri strident s'échappe de l'azur et redescend se mêler au ronflement des soldats. Alphonse imagine un aigle ou un épervier. L'adjudant laisse choir ses bras le long de son corps et sursaute lorsqu'il remarque que le caporal la rejoint dehors en silence.
« Bien matinal, caporal !»«
Plus envie de dormir, mon adjudant. Avec ces chaleurs, je n'arrive pas à rester longtemps dans le sommeil. »«
Moi, c'est le canon là-haut qui m'a tiré du lit. Ils sont pas loin, les boches, hein ? Hâte de monter leur casser la gueule. Allez !» « Faites-moi réveiller la troupe, Richard. À vos ordres, mon adjudant. »
Louis de Gobert est le premier debout. Alphonse lui demande de prendre sa trompette et de sonner le réveil. Le soldat s'exécute. Ses camarades râlent un peu et s'ébrouent comme de vieux chiens assaillis de puces et de sommeil. Ils attendent des ordres, le regard dans le vague, le fusil et le paquetage aux pieds, prêts pour la charge. Sans un mot, ils attendent l'heure. Alphonse les ferait bien poser tous ensemble, mais il n'ose pas déranger. Et puis tant pis, il va la faire, cette photographie. Le caporal va à sa poche, vite. L'appareil bien serré dans ses deux mains, il déclenche. Tant pis, si je me fais crier dessus, il se dit. La photo lui plaît. Ce qu'il voit dans son petit viseur ressemble à une large statue bosselée posée sur l'herbe piétinée. Un tas de soldats égarés dans le petit matin, avec du bleu clair au fond. Le ciel est intact, pas un nuage pour gâcher. Rien que le grondement du canon tout là-haut qui couvre presque le déclic. Dommage qu'on ne puisse pas mettre ce son sur la photo, il pense. Ils avancent tous maintenant dans les champs de blé, en petits groupes dispersés, comme un essaim bleu et rouge qui aurait éclaté sous le soleil naissant. Louis a reçu l'ordre de sonner la charge avec sa trompette. Il ne sait pas comment il faut faire, mais il lâche des notes en saccade. Il y va à plein poumon.
« Baïonnette au canon !» ordonne l'adjudant.
Les soldats obéissent et ils se lancent. Rien que des meules de foin pour s'abriter de la mitraille et du mortier allemand qui les arrose depuis la butte. Elles sont rondes, ces meules, plus grosses qu'au pays, mais pas de quoi protéger grand-chose. Claquement sec, explosion de tympan, hurlement tout autour d'Alphonse. Des soldats s'écroulent, fauchés par des rafales. Le caporal claque des dents. N'ont même pas eu le temps de faire sonner leur lebel, les copains foudroyés. La peur. Pour la première fois, elle le saisit au fond du ventre. S'attendez pas à ce massacre. Pensez pas que tout irait si vite. Serre les dents. Plus une goutte de génépi pour se donner du courage. Les obus maintenant, le sol chavire, les meules sont fauchées et tant d'hommes avec. Il pleut de l'acier et des gerbes de terre brunâtre rougies du sang des fantassins. Alphonse en a plein les yeux et la bouche. « Assassin !» il hurle, « Assassin !» Le voilà qui repart vers le sommet de la butte d'où l'ennemi canarde. Seul, personne autour de lui pour l'accompagner. Ont disparu ses camarades basalpins. Il ne les entend plus. Il ne les voit plus parmi les sillons bistres d'où montent les râles de chevaux fauchés, eux aussi, par les salves ennemies. Pas un arbre pour s'abriter, mais Alphonse aperçoit ce qui ressemble à un petit rocher à deux têtes et qui émerge du champ un peu plus haut.
« Pareil que Cousson !» il se dit. « Deux sommets comme Cousson !»
Courbé comme un vieillard surpris par l'orage, il court vers la cachette, s'y accroupit, et de sa manche s'éponge le front inondé de sueur. Étrange, ce rocher, c'est un amas de pierres éboulées, en fait. Une construction ancienne, victime du passage des siècles. Les restes d'une croix de bois noir jonchent ce tas de pierres posé là parmi les ronces. Un calvaire abandonné, abandonné des hommes. Alphonse se signe, ses cheveux le démangent.
« Cette sueur et ces saloperies de puces !» il se dit. Alors, il vérifie que l'étoile de Saint-Vincent est toujours là, dans la doublure de son képi.
Il l'ôte, le pose entre les deux sommets de son abri rocheux, puis il commence à se gratter. C'est poisseux, écœurant. Plus il gratte, plus ça démange. « Je pue la mort !» il murmure en sanglotant. « Et pourquoi ne suis-je pas parti moi aussi? Pourquoi ?» Le silence, tout à coup, comme un trou vide qui enveloppe de sa pesante écharpe tout le champ de bataille. Plus un cri, plus un râle, plus un claquement de rafale, plus la moindre explosion d'obus. Une parenthèse douloureuse et inespérée. Alphonse ne comprend pas. Lui revient à la mémoire le souvenir de ses promenades dans les montagnes au-dessus de Digne. Lorsqu'il arrivait en haut, tout en haut, il s'arrêtait pour écouter le silence, à peine strié de quelques bourdonnements d'insectes. Il fermait les yeux et guettait le passage d'un souffle dans les feuilles, souvent en vain l'été, lorsque la canicule remontait des vallons et des petits champs en terrasse. La chaleur écrasait tout. Là, pas le moindre frémissement d'air autour de lui. Tout est sec comme en apesanteur. Rien ne bouge, hormis ses cils lourds de sueur et de fatigue. D'où il est allongé, nuque contre pierre, Alphonse aperçoit à la ronde, en contrebas, les vestiges cauchemardesques de ce tout premier assaut donné à l'ennemi. Il grelotte dans l'air tiède. En rechargeant son lebel, la peur et la colère qui le tenaillaient il y a quelques secondes à peine laissent place peu à peu à un sentiment inédit qu'il ne sait nommer. Une sorte de béatitude offerte par le silence absolu qui l'enveloppe à l'abri au creux du calvaire éboulé. Cette absence de bruit le relie en profondeur au souvenir vivace de son cousson. Il rêve éveillé sous le soleil d'août, comme au pays, paisible. Sauf que le champ de bataille empeste le cadavre et qu'Alphonse se remet sans tarder à trembler de rage et de désespoir.
« Je vais y aller, » il dit. « Je vais y aller. Il me faut monter les délogés de là-haut. Allez !»
Se retourner face contre terre et récupérer le képi posé au creux du rocher à deux têtes. Lancer la main dans l'espace, vite. Saisir la visière et se recoiffer, lentement. Chercher le vest-pocket dans sa capote, puis deviner l'ennemi en clignant des yeux à travers les interstices de pierre. Oser laisser passer la moitié du visage au-dessus de l'abri pour mieux apprécier la situation. Puis, le visage entier. Appareil collé à l'œil, viser les couches brunâtres et vertes qui se dessinent là-haut dans le silence. Réprimer le tremblement qui agite sa face et ses doigts face à l'invisible ennemi. Déclencher. Le caporal s'écroula dans un bouillonnement de sang juste après la détonation tombée du bout du ciel jusqu'à sa gorge soudain muette. Il bascula vers l'autre monde. Ainsi mourut Alphonse-Antoine Richard, la tête affalée contre la terre bistre, les bras agrippés aux deux sommets du calvaire. Épilogue. Seul rescapé basalpin de la terrible bataille de Coincourt, il s'était caché au creux d'un tas de fumier dès les premiers tirs de canon allemand. Marius de Malmoisson récupéra au crépuscule le Kodak et les bobines dans la capote d'Alphonse Richard et il les conserva jusqu'à sa démobilisation. Victime du gaz moutarde au front en 16, il perdit la vue et fut rendu à ses foyers. Zoé, sa sœur cadette, retrouva l'appareil dans son paquetage. Elle fit tirer les clichés du regretté caporal. Devenue institutrice, elle les montra à chaque génération d'enfants qu'elle accueillit dans sa classe jusqu'à sa retraite. À son décès, vers la fin du siècle, tout comme Alphonse Richard, elle n'eut pas de descendance, les photos furent vendues aux enchères. Le bruit court qu'elles trouvèrent preneur chez un riche industriel allemand dont le grand-père fut tué à Coincourt le 14 août 14.